Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Clément Salazar et Juliette Gadeau, réalisée par Charlotte Roux et mise en onde ce matin par Alexandre Dang. Aujourd'hui, France Culture donc s'associe à la 14e journée mondiale contre la peine de mort. Alors que nous entendions ce matin, Anne de Biron nous le disait à l'instant, dans les matins de Guillaume Erner, celui qui est à l'origine en France de l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter, on va consacrer toute notre semaine sur les avancées, mais aussi sur les reculs en matière de peine de mort, de l'Iran à la Chine, en passant par le Pakistan, l'Arabie Saoudite et les États-Unis, les cinq pays qui ont le plus exécuté cette condamnés à mort l'année dernière, en 2015. Mais ce matin, on va entendre deux témoignages exceptionnels, celui d'une femme et celui d'un homme, un Américain et une Ougandaise qui ont échappé à la peine capitale, deux exemples de personnes qui se sont battues avant de se reconstruire. L'une vient d'Ouganda. Bonjour Suzanne Kigula.
Hello, good morning.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Suzanne Kigula, qui est restée plus de 15 ans en prison, de longues années durant lesquelles elle a ouvert une école, a obtenu un diplôme en droit. L'Ouganda, qui est un pays où la peine capitale perdure, bien que les exécutions y soient en diminution. 5 condamnations à mort en 2010, 5 en 2011, 1 en 2014 et 1 en 2015. Pourtant, on va voir ça dans quelques instants, des inquiétudes persistent et l'abolition ne semble malheureusement pas à l'ordre du jour. L'autre vient des États-Unis, c'est Ndoumé Olatouchani. Bonjour.
Good morning, Nev.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous avez, vous, été condamné dans le Tennessee en 1985. Vous êtes sorti de prison en 2012. On va revenir sur les conditions qui ont été celles de l'abandon des charges portées contre vous. Les États-Unis, ce pays qui reste dans le top 5 des pays pratiquant la peine de mort, avec la Chine, le Pakistan, l'Iran et l'Arabie Saoudite, je le disais. Mais où là, les espoirs sont permis. En effet, très récemment, l'Institut Pew publiait une étude montrant que le taux d'Américains favorables à la peine de mort était tombé à son plus bas niveau. Par ailleurs, pour l'année 2015, ce sont seulement 28 personnes, je mets seulement entre guillemets, qui ont été exécutées. Pour 2015, c'est le plus bas niveau depuis près d'un quart de siècle. Le contexte, il semble donc favorable pour les abolitionnistes. Quels sont les espoirs, mais aussi les inquiétudes dans ce combat international contre la peine de mort? Voilà évidemment les grandes questions qui vont nous intéresser. Pour nous accompagner également, Raphaël Chenuilhazan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, directeur de l'association Ensemble contre la peine de mort. Et puis également un historien qui va nous éclairer, qui arrive tout juste à cette table, c'est André Caspi. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, un spécialiste de l'histoire des États-Unis. Vous aviez écrit un livre il y a quelques temps sur la peine de mort aux États-Unis. Ce sera évidemment intéressant d'avoir aussi votre regard. On va commencer avec vous, Suzanne Kigula, si vous le voulez bien. Alors peut-être quelques mots de présentation. Vous êtes ougandaise, je le disais. Vous avez été condamnée pour avoir tué votre mari. Vous avez passé 16 ans dans une prison, dont 14 dans les couloirs de la mort. Quelques mois, en janvier dernier, vous avez été libéré après avoir vu votre peine réduite. En prison, vous avez repris vos études, vous avez créé une école avec le soutien des services pénitentiaires et vous avez finalisé ce cursus avec tous les honneurs. Vous avez même parvenu à suivre à distance un enseignement de droit à l'Université de Londres. Aujourd'hui donc, vous êtes engagé. Vous, bien sûr, et aussi Ndoumé Olatouchani, dans un combat contre la peine de mort. C'est la raison pour laquelle vous êtes ici à Paris. Première question, Suzanne, qu'est-ce qui vous a sauvé? Qu'est-ce qui finalement vous a donné la force de vous battre? Quels ont été les ressorts de votre résilience?
Hello,
Michel Zlotowski, pardon, était la traduction. Allez-y, Suzanne.
I am Susan Chugla from Uganda.
Mon nom est Susan Chugla. Je viens de l'Ouganda. J'ai été condamné à mort en 2002 après avoir attendu 2 ans d'être jugé. On m'a condamné pour un crime que je n'ai pas commis. Et quand j'étais en prison, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de femmes dans le couloir de la paix avec les mêmes intérêts, les mêmes angoisses. Et je me suis rendu compte que quelque chose devait être fait s'il fallait rester vivant. J'ai dû quitter ma fille qui avait 1 an. Maintenant, elle a 17 ans. Quand j'étais dans les couloirs de la mort, j'ai initié une école pour pouvoir éduquer mes co-détenus. Et moi non plus, je n'avais pas étudié, donc je me suis inscrite à ma propre école. J'ai passé mon bac et j'ai eu une bourse pour étudier à l'Université de Londres, qui m'a été donnée, cette bourse, par le projet des prisons africaines. J'ai été diplômé en droit très récemment. Je suis sorti en janvier 2016, mais pendant que j'étais dans les couloirs de la mort, j'ai eu cette motivation, cette force des circonstances qui étaient les miennes, de voir tellement de gens qui étaient condamnés, bien qu'étant innocents, et même ceux qui étaient condamnés et qui avaient commis un crime, avaient cette capacité de se réformer. Je pense que c'est une forme dégradante de punition, cette peine de mort. Tout être humain doit avoir une nouvelle chance de pouvoir poursuivre, parce que tout le monde a la capacité de transformer sa propre vie. J'ai dirigé une pétition en mon nom et je l'ai portée devant la Cour constitutionnelle. Et nous luttons contre, en disant que cette peine de mort était anticonstitutionnelle. Et nous contestons aussi la façon dont les détenus dans les couloirs de la mort étaient pendus. C'est une forme de traitement absolument dégradante et inhumaine. Et la Cour constitutionnelle a dit que toutes les peines de mort en Ouganda étaient anticonstitutionnelles. Et la plupart des détenus du couloir de la mort, en fait, tous sont condamnés à mort là-bas, mais tous doivent être rejugés pour ce qui a été fait.
On va revenir évidemment sur cette pétition, bien sûr, mais d'abord un mot, parce que finalement ce qui vous a aidé, ce qui vous a permis de sortir de ce couloir de la mort, c'est la création de cette école, c'est ces études que vous avez suivies. Qu'est-ce qui a finalement fait que les autorités pénitentiaires vous ont aidé dans ce projet-là? Parce que vous en ayez le désir, on le comprend très bien, et d'ailleurs tant mieux, mais qu'est-ce qui a fait que vous avez pu convaincre les autorités pénitentiaires de vous suivre dans ce projet?
Thank you. The prison authority in Uganda
eh bien, had seen me les prisons had just come in. M'ont vu quand je suis rentré, ont vu quelle était ma transformation personnelle dans ma vie, quelqu'un qui se conduit bien, et j'espérais que le service des prisons aiderait à la réhabilitation des autres prisonniers. J'étais impliqué dans d'autres activités au sein de la prison. Et ils ont vu que je donnais des conseils aux autres détenus. Et quand je leur ai présenté ce projet d'éducation, ils ont trouvé que c'était très intéressant.
Et
ils avaient un budget très restreint, ils n'avaient pas les moyens de débuter une école. Mais quand ils m'ont donné le feu vert, eh bien, j'ai fait du lobbying pour aider à trouver les fonds nécessaires et j'ai encouragé mes co-détenus à venir être enseignés et à enseigner. Moi, j'étais enseignante et j'étais enseignant en même temps. Donc, la plupart des femmes dans ce couloir de la mort étaient là en raison de leur analphabétisme, de leur ignorance. Elles ne savaient même pas comment lire ou écrire. Elles ne comprenaient même pas quels étaient les critères qui étaient utilisés par la Cour de justice. Et une fois qu'elles ont eu cette éducation fondamentale de base, elles ont compris comment se présenter devant les tribunaux et comment se défendre. Et j'ai aidé aussi à transformer leur propre vie.
Alors, vous le disiez, Suzanne Kigula, vous êtes à l'origine, c'était il y a quelques années, d'une pétition devant les tribunaux constitutionnels ougandais. C'était un texte que vous aviez intitulé « Suzanne Kigula et les 417 autres ». Vous réfutiez le caractère automatique de la peine de mort. Vous disiez que c'est contraire à la constitution ougandaise. Où est-ce que vous en êtes dans ce combat-là, dans l'automaticité de la peine capitale? Et quelles sont, selon vous, Suzanne Kigula, les chances que l'Ouganda en finisse définitivement avec la peine capitale?
Thank you. As I was earlier saying in the constitutional court ruling,
bien, comme je vous l'ai dit dans cette décision de la Cour constitutionnelle, toutes les peines de mort ont été déclarées anticonstitutionnelles, non seulement au bénéfice de tous les détenus qui étaient dans le couloir de la mort à l'époque, mais tous ceux et celles qui ont été aussi emprisonnés après notre pétition.
Mais pourtant, il y a encore des exécutions.
Non. No, we've not had executions
non,
in Uganda
il n'y a plus
for a
d'exécution
long time.
Depuis longtemps en Ouganda.
And I would say that the constitutional petition actually
et en fait, la pétition a lié les mains du gouvernement d'une certaine manière parce que les lois de l'Ouganda ont changé et maintenant, si le gouvernement voulait exécuter des détenus, il devrait y réfléchir à deux fois, parce que selon l'édit qui a été fait, le décret qui a été pris, ce serait anticonstitutionnel.
Et donc,
parce que le gouvernement s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus faire ces exécutions. Donc je suis très heureuse de vous dire que maintenant, une loi va être présentée devant le Parlement ougandais pour réviser les lois de notre pays. Il faut tout simplement sensibiliser encore plus les législateurs et les masses, mais nous avons beaucoup d'espoir que un jour, la peine de mort sera officiellement abolie en Ouganda.
Vous avez des espoirs. Moi, j'ai des inquiétudes, Suzanne Kigula. Je vais vous dire pourquoi. Notamment parce que en Ouganda, le gouvernement réprime avec beaucoup de violence l'homosexualité. Ça peut valoir la prison à vie. En 2011, le Parlement avait repoussé sine die le projet anti-homosexualité qui, dans sa version initiale, prévoyait la peine de mort pour homosexualité aggravée. Je mets des guillemets. Écoutez ce que se disait il y a deux ans le ministre de l'éthique et de l'intégrité d'Ouganda. Écoutez.
This bill will isolate people who stubbornly and obstinately entertain.
Cette loi va isoler ceux qui entretiennent cette perversion de façon têtue et obstinée et utilisent cette perversion pour se démarquer de la société comme si c'était acceptable de se comporter ainsi. Notre loi dit, s'il vous plaît, si vous êtes homosexuel, restez chez vous. C'est déjà regrettable que vous soyez dans cet état. S'il vous plaît, n'allez pas essayer d'entraîner d'autres personnes avec vous. Alors, je dis que quiconque est surpris en train de commettre ces actes incroyables et abominables doit être inspecté et rejeté de la société. Si on vous surprend en train de le faire, on vous jettera en prison.
Ministre de l'éthique et de l'intégrité du Ouganda, qui s'appelle Simon Lokodo. Alors, il y a deux ans, le président ougandais Yoweri Museveni a promulgué une loi durcissant les peines contre les pratiques homosexuelles, interdisant notamment toute promotion, je mets des guillemets, de l'homosexualité, rendant obligatoire la dénonciation de quiconque s'affichant comme homosexuel, mais a écarté cette mesure de peine de mort. Et pourtant, Rebecca Kadaga, qui est la très homophobe présidente du Parlement ougandais, qui était à l'origine du premier projet de loi Kill the Gays, tuer les gays, revient à la charge. C'est ce que j'ai lu il y a quelques jours dans la presse ougandaise. Comment comprendre que l'Ouganda ne parvienne pas à se débarrasser de ce projet nauséabond de peine de mort pour les homosexuels?
When we agitate for the abolition of the death penalty
quand nous avons
in
fait
Uganda,
cette pétition contre la peine de mort en Ouganda,
crime
nous avons parlé de discrimination contre tout type de crime commis. Donc même si ce sont des terroristes, si ce sont des homosexuels, nous sommes tous en faveur de l'abolition de la peine de mort, quelles que soient les circonstances. Et la peine de mort ne peut pas être mise en place si une loi est votée pour la peine de mort contre les homosexuels, c'est comme si on tuait une mère de famille ou un terroriste ou un voleur ou peu importe. Donc, il n'y a pas de ségrégation à faire entre les crimes. Nous faisons une campagne pour l'abolition totale de la peine de mort. Aucun être humain ne devrait pouvoir être pendu.
J'imagine que ça doit être très compliqué de faire justement une campagne contre la peine de mort parce que c'est un sujet difficile à aborder pour les Ougandais parce que cette dernière loi, justement, elle condamne la propagande pour l'homosexualité. Je mets des guillemets, une fois encore, il faut le faire. Il y a un discours de dénonciation de la loi, eh bien, ça pourrait être tout simplement considéré comme de la propagande homosexuelle, d'où la difficulté, évidemment, de s'exprimer. Comment est-ce qu'on fait quand on est à votre place, Suzanne Kigula, pour combattre un sujet sur lequel on doit s'exprimer avec une extrême prudence. Finalement, quelles sont les armes dont vous disposez pour faire avancer les choses? Est-ce que c'est une bataille de l'opinion? Est-ce que c'est une bataille juridique?
I think it's both.
C'est les deux.
My weapon is what I believe in.
Mais mon arme, c'est ce en quoi je crois. Je vais voir et faire ce que je dois faire. Je vais dire ce que je dois dire, peu importe si on me croit ou pas. Je suis en faveur de la justice. Ce qui est la justice, c'est qu'il ne doit pas y avoir de peine de mort en Ouganda ou ailleurs. Donc, du point de vue juridique, oui, c'est notre défi. Parce que la plupart des législateurs ne sont pas sensibilisés correctement. Et l'opinion publique, c'est aussi un autre défi. Mais ce n'aurait pas été un tel défi si les dirigeants, au lieu de s'appuyer sur les masses et de dire des choses qui ne sont pas très bonnes, les avaient enseignées correctement. Je vous dis ce pourquoi nous luttons. C'est très facile, finalement, de sensibiliser les masses à ce que nous voulons dire. Ça sera plus facile ensuite de sensibiliser les législateurs. Et ça sera plus facile, encore une fois, ensuite, pour que les dirigeants écoutent et les masses et les législateurs.
Suzanne Kigula, est-ce que la pression extérieure, celle des pays notamment occidentaux, est-ce que la pression, par exemple, venant d'ONG, comme le travail qu'effectue Raphaël Chenier-Azan, qui est à vos côtés, qui est directeur de l'association Ensemble contre la peine de mort, est-ce que tout cela a de l'effet? Il y a par exemple eu des pressions qui ont été faites sur l'Ouganda, de pays qui ont dit « on ne vous donnera plus d'argent, on va annuler un certain nombre d'aides si vous ne revoyez pas vos positions, et notamment vos positions en matière de peine de mort ». Est-ce que ces choses-là ont de l'effet? Ou est-ce que finalement les choses se passent de l'intérieur, au niveau de la société ougandaise?
To some extent,
yes. Dans une certaine mesure, oui, parce que
we have several civil societies in the country,
nous avons plusieurs ONG à l'intérieur du pays, et les pressions extérieures, d'une manière ou d'une autre, ont eu un effet positif sur cette question. Même si le gouvernement ne se soumet pas aux pressions, mais d'une façon ou d'une autre, le public est informé à travers les organisations civiles. Et les gens se rendent compte que si la plupart des pays ont aboli la peine de mort et essayent que notre pays fasse la même chose, eh bien, il faut être à leur côté. Parce que ces autres pays ont vu l'avantage. Et les masses chez nous voient l'avantage que ces pays qui ont abandonné la peine de mort obtiennent. Eh bien voilà, et c'est mieux que dans les pays qui maintiennent la peine de mort.
Je me tourne vers vous, Raphaël Chenier-Azan. Vous êtes directeur de l'association Ensemble contre la peine de mort. Chaque année, Amnesty International produit un rapport sur la peine de mort. Dans sa dernière édition d'avril dernier, qui dresse un bilan pour l'année 2015, que j'ai là sous les yeux, on nous apprend que le nombre d'exécutions a augmenté de 50% en 2015 par rapport à l'année précédente. Ce sont 1634 personnes qui ont été exécutées. Et dans le même temps, on nous dit aussi que le nombre de pays l'ayant aboli n'a jamais été aussi important. 102 pays. Comment expliquer ce bilan extrêmement contrasté, de moins en moins de pays qui pratiquent la peine de mort et dans le même temps de plus en plus d'exécutions?
Alors d'abord, attention, le nombre d'exécutions est à prendre avec des pincettes parce que le rapport d'Amnesty depuis quelques années arrête de notifier les nombres d'exécutions en Chine. Et il se trouve que la Chine est le pays qui exécute le plus et massivement et de loin. Donc ce nombre est très variable si on enlève le premier exécuteur au monde. Et le deuxième pays exécuteur au monde, c'est l'Iran. Ensemble contre la peine de mort édite tous les ans un rapport annuel avec notre partenaire Iran Human Rights pour essayer de quantifier. L'année dernière, nous avons essayé à quantifier autour de 960 exécutions, mais nous savons très bien que ces 960 ne donnent pas la réalité du pays et des exécutions et de la peine de mort en Iran. Il y en a beaucoup d'autres qui sont derrière les murs des prisons iraniennes. Donc, c'est à prendre avec des pincettes, et en même temps, ça veut dire quelque chose. Cela veut dire quand même qu'il y a eu, en 2015, une tendance que l'on a revue, notamment en particulier dans des pays comme le Pakistan, l'Indonésie a relancé les exécutions. On en a beaucoup parlé l'année dernière, et mon organisation était à l'avant de cette campagne pour sauver notre concitoyen, mais les autres aussi condamnés à mort. Donc voilà, nous avons vu de nouveaux pays relancer les exécutions, d'autres anciens pays exécuteurs comme l'Arabie Saoudite qui ont des chiffres qui dépassent l'entendement pour ces pays, qui sont autour de 160 exécutions en Arabie Saoudite alors qu'ils en faisaient beaucoup moins avant. Donc il y a une tendance réelle qui est à mettre sur le dos de beaucoup de choses. Peut-être, on en parlera tout à l'heure de la situation du terrorisme international, mais ça, c'est un argument qui est utilisé, mais aussi beaucoup d'autres situations. Et dans le même temps...
Parce qu'évidemment, le contexte actuel favorise...
Très clairement, il favorise, ou en tout cas, il favorise des pays qui avaient envie de montrer des signes à leur population, de pouvoir utiliser l'argument terroriste pour pouvoir exécuter.
Oui, on pense évidemment pour le coup au Pakistan, parce qu'il y avait un moratoire au Pakistan, et suite à ce terrible attentat qui avait touché une école militaire, c'était en 2014, finalement le Pakistan a levé ce moratoire. Mais on en consacrera d'ailleurs une émission spéciale cette semaine. Je voudrais vous poser la question que je posais tout à l'heure à Suzanne Kigula. Finalement, vous qui êtes directeur de cette association Ensemble contre la peine de mort, où se situe la bataille? Est-ce qu'elle se situe dans le champ de l'opinion ou est-ce que se situe dans le champ du droit essentiellement? Au fond, à quoi sert la bataille d'opinion? Est-ce que c'est pas d'abord et avant tout devant les cours constitutionnels, devant les cours suprêmes que les choses se passent?
Alors moi je vais rajouter, d'abord je vais répondre comme Suzanne, les deux, mon capitaine, et je rajouterai un troisième champ, et peut-être le plus important, c'est le champ politique. Le champ du droit viendra concrétiser une volonté politique. Et ce que l'on appelle, des fois comme un gros mot, le lobbying international, mais qui est réellement ce qu'il est nécessaire de faire sur l'abolition de la peine de mort dans le monde, c'est de viser les exécutifs, les présidents, les premiers ministres, quand il y en a, des ministres des Affaires étrangères, les ministres de la Justice, pour que ces gouvernants aillent dans le sens de l'abolition, comprennent que c'est l'intérêt de leur pays, comprennent que... Souvent, certains d'entre eux sont abolitionnistes, personnellement, et comprennent, et on essaie de leur faire comprendre, qu'il est nécessaire d'avoir ce courage politique. Vous avez reçu Robert Badinter, qui est président d'honneur de mon association, et qui a eu, avec François Mitterrand à l'époque, ce courage politique, ce courage de pouvoir aller à l'encontre d'une opinion publique. Mais, évidemment, il est important de travailler l'opinion publique en parallèle. Il est important que l'opinion publique puisse quand même être... Que à la fois l'opinion publique et à la fois les organisations de la société civile, à la fois les corps constitués, c'est l'opinion publique, ça veut tout dire et rien dire. Oui. Quand on parle d'opinion publique, on parle aussi des intellectuels, on parle aussi des artistes, on parle aussi des avocats et des groupes de mobilisation nationale. Et c'est quand la société civile, les avocats, les intellectuels, les chercheurs poussent vers l'abolition que les hommes politiques réagissent et y vont. Et après, la mobilisation légale, le changement juridique est possible.
Donc elle est quand même nécessaire. Ben, on va justement s'intéresser peut-être aux États-Unis. Il y a un homme qui, effectivement, sent bien que l'opinion est en train de changer. C'est Barack Obama. Il y a quelques années, il s'exprimait sur la peine de mort. Écoutez.
L'application de la peine de mort dans ce pays, nous l'avons vu, pose des questions importantes. Des préjugés raciaux qui entraînent une application injuste de ces peines. Des situations dans lesquelles les condamnés à mort ont été innocentés après la découverte de nouveaux éléments. Tout cela pose de graves questions sur la manière dont la peine de mort est appliquée.
Voilà, l'application de la peine de mort qui pose question, c'était donc Barack Obama en mai 2014. D'ailleurs, si la peine capitale continue d'exister aux États-Unis, elle semble quand même s'inscrire dans une dynamique de recul. Il y a des moratoires qui ont été déclarés dans plusieurs États. La Cour suprême a interdit dans les années 2000 la peine capitale pour les handicapés et les mineurs. Plusieurs États s'en sont complètement débarrassés. Je pense au New Jersey, le Nouveau-Mexique, l'Illinois, il y en a d'autres encore. Alors, Doumé Olatouchani, je me tourne vers vous dorénavant. Alors je rappelle peut-être pour nos auditeurs, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, mais je le redis, vous avez passé vous 27 ans en prison, dont 19 dans les couloirs de la mort, dans une prison du Tennessee, pour un crime que vous réfutez en 83. Alors vous avez 26 ans, vous êtes accusé d'un meurtre d'un épicier lors d'un braquage, condamné à la peine capitale. 20 ans plus tard, votre peine est commuée en une peine de prison à perpétuité par la Cour suprême du Tennessee, et finalement, après plusieurs années et un nouveau jugement, vous avez été libéré, grâce à une procédure d'ailleurs qu'il faudra peut-être évoquer, qui s'appelle la procédure, le plaidoyer Alford, mais on y reviendra. D'abord, Ndoumé Olatouchani, pour vous, il y a une rencontre qui va être décisive dans votre combat pour échapper à la peine capitale. C'est celle avec Anne-Marie Moyes qui va devenir votre femme. On est en 1991 et c'est à ce moment-là qu'un nouveau combat judiciaire va s'entamer pour vous. Racontez-nous quand même cette rencontre qui va être décisive pour vous.
Yes, thanks. My name is Ndoumé Olatunsani, and I did spend 28 years in prison, and 20 I was on death row.
Ndoumé Olatunsani, et j'ai passé 28 ans dans les couloirs de la mort pour un crime que je n'ai pas commis. Et pendant que j'étais dans le couloir de la mort, en prison, j'ai rencontré celle qui est aujourd'hui ma femme. Elle m'a beaucoup aidé pour me présenter l'injustice qui m'avait été faite. Eh bien, 6 ou 7 ans après que nous nous soyons rencontrés, elle est allée à la fac de droit. Elle est diplômée de droit. Et elle est devenue prof de droit. Et elle est devenue aussi avocate dans le Tennessee.
Et
grâce au travail qu'elle a fait en recherchant ce qui s'était passé dans mon cas, elle a recherché des témoins dans tout le pays, différents endroits. Une des choses les plus importantes qu'elle ait faites, elle a pu retrouver
Cleary, Gottlieb, Steen et Hamilton, one of the 50 largest law firms in the United States, actually.
Un des avocats les plus célèbres des États-Unis, de le recruter. En fait, il a travaillé sur mon dossier pendant 17 ans. Et ils ont commencé à s'occuper de mon dossier en 1995. Et en 2004, je suis sorti physiquement du couloir de la mort. Mais ça a pris des années encore avant qu'en juin 2012, je puisse rentrer chez moi, à la maison. J'y suis depuis 4 ans. Et comme vous l'avez dit, je pense que l'opinion publique aux États-Unis change et au sujet de la peine de mort. En raison de situations comme la mienne, ce qu'on voit chaque semaine des gens qui sont libérés de prison après avoir passé des années et des années pour des crimes qu'ils n'avaient pas commis. Je crois qu'il y a 150 personnes qui étaient dans les couloirs de la mort et qui ont été blanchies aujourd'hui. La plupart d'entre eux ont passé des décennies en prison. Et certains d'entre eux ont même été exécutés. Je crois que ce qui change l'opinion publique, vous savez, l'ADN, même dans la plupart des enquêtes, il n'y a pas d'enquête sur l'ADN qu'on retrouve, mais chaque fois qu'on peut découvrir des traces de l'ADN, ça apporte des preuves que les gens qui étaient dans les prisons pendant des années, ça peut... Parce que les autres preuves que l'on apporte, c'est les empreintes digitales, les gens y ont fait confiance pendant des décennies. Mais l'ADN prouve finalement que certaines des preuves ont été fabriquées tout simplement. Parce que certains procureurs y ont cru ou ont menti. Et ça, c'était le moteur principal du changement de l'opinion publique aux États-Unis.
Maintenant,
les gens qui se sont véritablement battus et l'ADN est venu prouver que toutes les preuves qui ont été portées contre eux étaient fausses.
Ndoumé Olatunsani, alors j'ai évoqué cette rencontre, mais il y a une autre chose qui va être très importante pour vous, c'est la peinture. D'ailleurs, Michel Zotowski a apporté une représentation de l'un de vos tableaux. Qu'est-ce que la peinture vous a apporté dans votre combat?
Painting for me, painting in a lot of ways saved my life, actually.
Bah, la peinture a sauvé ma vie d'une certaine manière.
Before I found myself sitting on death row, I had no interest in art.
Avant d'être dans le couloir de la mort, je ne peignais pas.
2 years into my imprisonment, my mother was actually killed in a car accident.
Et ma mère a été tuée dans un accident de la route. Et puis, à ce moment-là, il y avait un co-détenu aussi dans le couloir de la mort. Et je, avant que ma mère ne meure, je lui ai commandé, je l'ai payé, un portrait de moi-même pour que je puisse lui envoyer mon portrait à ma mère. Et quand il a fini le portrait, j'ai regardé, j'ai dit, mais c'est pas moi ça. Et chaque fois que je regardais ce portrait, je me suis dit, mais j'aurais pu faire mieux que ça et j'aurais gardé mon argent. Donc, et puis je me suis dit, mais pourquoi je pourrais pas le faire moi-même? J'étais dans la petite cellule de 2,50 m sur 3,50 m, 23 heures sur 24. Et c'est là que je me suis rendu compte que je pourrais faire quelque chose. Et je vous dis, ça a sauvé ma vie, ça m'a permis de créer des choses que je voulais voir, par opposition au fait d'être dans ce type de cellule en attendant d'être exécuté pour quelque chose que je n'avais pas fait. Et l'art, pour moi, c'était une forme de résistance. J'ai pu résister.
Oui, vous dites que ça a libéré votre esprit.
Oui, exactement. L'art m'a certainement permis de trouver de la liberté dans cette minuscule cellule où je passais 23 heures sur 24 de ma vie.
Je voudrais encore poursuivre quelques instants avant de me tourner vers André Caspi et voir ce que l'historien nous dit de cette situation. Je disais tout à l'heure que vous aviez utilisé ce qu'on appelle le plaidoyer Alford en français. En 1970, alors je reviens quand même en quelques mots pour expliquer aux auditeurs, il y a un procès qui se tient en Caroline du Nord et c'est Henry Alford qui est accusé de meurtre. Il risque la peine capitale si sa culpabilité est reconnue alors qu'il clame lui son innocence. Il va accepter de plaider coupable pour ce meurtre second degré afin d'éviter la peine de mort tout en revendiquant son innocence. Ce faisant, il est condamné à 30 ans de prison, qui est la peine maximale pour un crime de second degré. Il fait appel, considérant qu'il a été forcé à plaider coupable, mais la Cour suprême de Caroline du Nord affirme qu'il a volontairement fait cette démarche tout en reconnaissant parfaitement les conséquences. C'est exactement ce que vous avez fait, vous. Et par ce plaidoyer, vous avez été reconnu innocent, donc libéré. En revanche, vous n'avez pas eu droit à des indemnisations pour les 27 années passées en prison. Alors, dites-moi si j'ai bien compris, nous met Ola Touchani, est-ce que c'est bien comme ça que ça s'est passé? Et comment est-ce qu'on fait pour refaire sa vie quand on a passé, comme vous, quasiment 30 ans derrière les barreaux et qu'on sort avec rien?
Heureusement, j'avais une famille et des amis qui m'ont soutenu pendant tout ce temps où j'étais en prison. Et une fois que j'en suis sorti aussi, le plaidoyer Alford aux États-Unis, c'est plus pour exonérer les États de leurs responsabilités par rapport à ce qu'ils ont fait aux détenus. Et quand je suis allé en prison, j'ai toujours dit que j'étais innocent. Mais par ce plaidoyer pour meurtre au second degré, je pouvais donc être libéré immédiatement au lieu de passer encore 2 ou 3 ans en prison en attendant de repasser devant un tribunal pour être finalement reconnu innocent et courir le risque tout de même d'être considéré comme coupable à nouveau et d'être renvoyé en prison. Donc j'ai choisi finalement de faire cette forme de plaidoyer pour pouvoir rentrer chez moi plutôt que de passer encore du temps supplémentaire en prison.
Est-ce que quand d'ailleurs on est enfermé en prison et qu'on attend son exécution, donc la peine capitale, est-ce qu'on fait l'objet d'un traitement à part? Je ne dis pas simplement sur la question d'une forme de ségrégation spatiale qui est possible dans un système carcéral, mais est-ce que l'administration carcérale, est-ce que les autres détenus se comportent de façon spécifique?
Indeed, they do.
Oui, c'est le cas.
I think that people are sitting on death row are certainly treated
Les gens qui sont dans le couloir de la mort sont traités de façon différente. Tout le processus, c'est celui de la déshumanisation. Ils sont traités de façon différente, ces détenus dans le couloir de la mort, parce que l'administration et les gardiens, ben vous attendez d'être exécuté. Parce que vous êtes là, dans cette attente, ils traitent les gens en tant que moins qu'humains. Cela leur permet d'être autour de vous sans être vraiment concerné par qui vous êtes ou ce que vous êtes. Ils ne vous voient plus comme un être humain. Tout ce processus, en fait, c'est certainement un processus de déshumanisation. Et la plupart des gardiens arrivent, travaillent, font tout ce qu'ils peuvent pour s'assurer qu'ils maintiennent cette distance entre eux et vous, peut-être pour maintenir leur propre humanité. Parce que imaginez que vous êtes avec quelqu'un tous les jours et vous savez qu'il va être exécuté, bah pour pouvoir conserver votre propre humanité, vous devez pouvoir regarder cet individu en sachant que ce sont eux qui vont vous mener à la chambre d'exécution.
Ils
traitent vraiment de façon différente. La plupart des gens qui sont dans le couloir de la mort aux États-Unis, ils sont enfermés 22-23 heures par jour. Le seul contact qu'ils ont avec des gens, ce sont les gardiens qui viennent pousser la nourriture sous leur porte, qui viennent vous enchaîner comme si vous étiez un monstre pour vous faire sortir de votre cellule pour une heure ou pour vous amener de la cellule jusqu'à la douche.
Donc,
la plupart des gens dans le couloir de la mort, c'est ça qu'ils vivent tous les jours.
André Caspi, je voudrais qu'on s'interroge sur l'avenir de la peine de mort aux États-Unis. On voit une situation où finalement on exécute de moins en moins aux États-Unis. On voit des États, par exemple, on nous dit qu'au Texas, la peine de mort est en déclin. On sait que du côté de la Californie, par exemple, il y a un moratoire depuis maintenant une dizaine d'années. Donc on voit que les choses vont dans le bon sens. Mais on se demande si finalement l'abolition total, général, viendra. On se demande si on va pas se retrouver dans une situation où finalement on n'abolit pas vraiment la peine de mort, mais on arrête les exécutions.
Alors, André Caspi. Il ne faut pas oublier que les États-Unis ou les Américains sont en général pragmatiques. En ce moment, il y a une campagne électorale, comme vous le savez, pour la présidence. Aucun des candidats ne demande l'abolition de la peine de mort. Et même d'ailleurs dans l'extrait que vous avez passé de Barack Obama, il ne dit pas « il faut abolir la peine de mort ». Ce que les abolitionnistes essayent de faire passer, c'est l'idée que la peine de mort est profondément injuste et immorale. C'est-à-dire que, par exemple, aujourd'hui, les condamnations à mort et les exécutions à mort ça ne correspond pas à la même chose. Aujourd'hui, il y a 3000 condamnés à mort dans les prisons américaines. Mais en 2016, il y a eu 16 exécutions. Et si l'on compare avec ce qui s'est passé précédemment, l'année où les exécutions étaient les plus nombreuses, c'est-à-dire en 1999, il y avait 98 exécutions. On est donc dans une période où les exécutions sont de moins en moins nombreuses. Alors qu'est-ce que l'on peut faire pour aboutir à une abolition pratique qui n'est pas une abolition théorique? Alors, il y a un certain nombre d'arguments. Le premier argument, il a été cité tout à l'heure, c'est-à-dire, au fond, il faut arriver à prouver l'innocence du condamné à mort, et notamment par l'utilisation de l'ADN. Il y a aussi tous les efforts qui sont faits pour montrer que la peine de mort est discriminatoire, en ce sens qu'elle frappe davantage les Noirs, les Africains-Américains, que les Blancs. Ce qui n'est pas d'ailleurs tout à fait exact, parce que, voyez, sur les 16 de 2016, il y a eu 3 exécutions de Noirs et les autres sont des exécutions de Blancs. Il y a une exécution de Latinos. Bon, autrement dit, ça veut dire que c'est très complexe. Mais je crois que ce qui est très important, c'est de savoir comment le système fonctionne. Parce que finalement, l'État qui est le plus accusé dans cette affaire, c'est l'État du Texas. Parce que c'est au Texas que l'on exécute. Au fond, il y a eu une exécution par-ci, par-là, dans d'autres États, mais c'est essentiellement au Texas que cela se passe. Et je crois qu'il faut tenir compte du fait que la procédure américaine est tout à fait différente de la procédure française. C'est une procédure qui est déconcentré, c'est-à-dire que cela dépend des États, et à l'intérieur des États, cela dépend des comtés.
On va revenir dans un instant avec vous, Ndoumé Olatouchani, sur cette question qu'a évoquée André Caspi, qui est la question noire dans le système carcéral et dans cette question de la peine de mort. Mais André Caspi, vous dites la peine de mort, elle est immorale. C'est la position finalement qu'ont les candidats aujourd'hui. Alors, on ne se prononce pas contre la peine de mort, mais on dit qu'elle est immorale. Et en même temps, on a l'impression qu'elle incarne d'une certaine manière une sorte de totem qui protégerait les États-Unis contre le mal.
Je n'ai pas dit que tous les candidats considèrent que la peine de mort est immorale. Je crois que beaucoup d'entre eux le pensent. Mais je crois que ce qu'il faut dire, c'est que chez les Américains, il faut remplacer la peine de mort par quelque chose. Donc, si on la remplace par l'emprisonnement à vie, sans possibilité de sortir de la prison, il y a là une majorité d'Américains qui iraient dans ce sens. Et je vais vous donner simplement un exemple. Entre 1968 et 1973, il y a eu un moratoire général de la peine de mort aux États-Unis. Et c'est au cours de cette période que Robert Kennedy a été assassiné. Le 5 juin 1968. L'assassin de Robert Kennedy est toujours en prison. C'est-à-dire qu'au fond, depuis 40 ans, il est en prison et il n'est pas question de le libérer. Il a demandé d'ailleurs récemment sa libération, il ne l'a pas obtenue. Ça veut donc dire que pour les Américains, si la peine de mort est remplacée par l'emprisonnement à vie sans possibilité de sortir, alors à ce moment-là, je crois que petit à petit, la peine de mort disparaîtra.
Ndoumé Olatouchani, je me retourne vers vous pour évoquer cette question de la condition peut-être des Afro-Américains dans le système carcéral et de cette question de la peine de mort. D'ailleurs, Barack Obama, dans le discours dont on a diffusé tout à l'heure un extrait, disait précisément que les Afro-Américains étaient davantage touchés, même si visiblement André Caspi nous dit que pour cette année, ce n'est pas forcément le cas, mais en tout cas, les Noirs seraient davantage touchés par la peine capitale. Il y a par exemple aussi le travail d'un sociologue de l'université d'Harvard qui s'appelle Bruce Western, qui a réalisé tout un travail sur le système carcéral et sur la population noire et qui montre que la probabilité pour un homme noir sans diplôme d'être incarcéré au cours de son existence, elle est de 60%. Ça peut même monter à quasiment 70% pour les plus jeunes. Ça veut dire que la prison est devenue quasiment un passage obligé, finalement, dans le parcours d'un noir américain. Qu'est-ce que ça vous inspire, Ndoumé Olatouchani?
Le problème de la race aux États-Unis
est un grave problème.
En fait, les Afro-Américains sont de façon disproportionnée représentés dans la population carcérale.
Tous les mauvais traitements subis par les gens aux États-Unis, les Noirs sont surreprésentés. Et les 16 personnes qui ont été exécutées en 2016, 3 ou 4 étaient des gens de couleur, mais la réalité, c'est que c'est, en fait, si on regarde véritablement le nombre de gens qui sont dans les couloirs de la mort à travers le pays, aux États-Unis, les Afro-Américains sont en majorité, presque 50%, alors qu'ils ne représentent que 13% de la population américaine. Et la population des prisons, c'est vraiment la même proportion, 50% quasiment.
A black person is, I think, 6 or 7 times more likely to receive a death sentence for killing a white person.
Six ou sept fois plus de risque de
d'être condamné à mort qu'un blanc. Si
ils sont meurtriers, c'est des meurtriers.
Donc, principalement, la peine de mort s'applique plus aux noirs qu'aux blancs aux États-Unis.
People sitting in prison. I was one of the people that I was tried in a city that I had never been to.
Dans une ville dans laquelle j'avais jamais mis les pieds pour avoir tué un blanc dans la ville de Memphis, en Tennessee.
Memphis, Tennessee, the population Tennessee,
la population là-bas
is over 50% black, and
elle était à plus de 50% noir. Et c'était la même chose aussi en 1985 quand j'étais jugé. Et pourtant, le jury, là, il était entièrement blanc. Et j'ai été condamné à mort.
My trial, I think, lasted 6 days. It only took this white jury less than 2 hours to come back with a guilty verdict.
J'ai été jugé en 4 ou 5 jours, mais ça a pris moins de 2 heures à ce jury pour me condamner, me trouver coupable. Et puis après, ça leur a pris moins de 2 heures aussi pour me condamner à mort. Donc le racisme, ça reste un grave problème aux États-Unis.
On ne peut pas imaginer que dans cette vitesse d'exécution, il n'y avait pas des préjugés, bien sûr. Ces dernières semaines, ces derniers mois, ces dernières années, Ndoumé Olatouchani, on a vu aux États-Unis émerger un mouvement national de protestation contre les violences policières à l'égard des Afro-Américains, notamment ce mouvement Black Lives Matter, qui est un mouvement qui a été créé en 2013 dans le sillage de l'affaire Trayvon Martin, ce jeune Afro-Américain de 17 ans, abattu par un homme blanc chargé de la surveillance du quartier. Il s'est beaucoup illustré, ce mouvement, récemment dans les manifestations à Charlotte, suite au meurtre d'un homme noir, Kay Scott, qui a été tué par un policier. Certains considèrent qu'on est en train de vivre finalement l'émergence d'un mouvement absolument inédit, peut-être le plus fort depuis les mouvements des droits civiques des années 50-60. Quel regard vous portez sur ce regain de mobilisation, alors que le pays sort quand même de 2 mandats du premier président noir qui promettait de faire basculer les États-Unis dans une Amérique post-raciale?
I'm certainly encouraged by some of the stuff that you actually see going on with Black Lives Matter movement and
other ce mouvement, different organizations. Les vies noires contre Black Lives Matter.
In fact, I work for an organization.
Je travaille aussi pour une organisation. Nous luttons contre ces mêmes violences, contre ces préjugés raciaux, et principalement au sein du système de la justice américaine.
A lot of the stuff that you see.
Beaucoup de choses que nous voyons se produire, c'est en fait dû au fait de la nouvelle technologie. Les gens se baladent avec des téléphones et on peut prendre des vidéos. Et donc tout ce que l'on voit et tout ce que l'on entend aujourd'hui, c'est simplement parce que les gens ont des téléphones portables qui peuvent prendre des vidéos. Et finalement, on voit aujourd'hui ce que les Noirs disent depuis des années. Ça s'est produit depuis, ça se produit depuis des années.
But for the technology in terms of cameras and being able to expose.
Et en fait, être capable de montrer ce qui se passe, ce qui se passe en ce moment.
There wouldn't be no change.
Je pense que sans cela, il n'y aurait pas de changement.
I think that even though that you still have cameras exposing some of this
stuff. Maintenant qu'on peut voir certaines de ces violences, il y a toujours cette résistance de la majorité de la société américaine à cette résistance à exiger quelque chose de différent, un traitement différent. Il y a eu Eric Garner aux États-Unis. Il y a eu une vidéo alors que la police l'a étouffé sous les yeux des caméras, enfin sous l'objectif des caméras, et ces policiers n'ont pas été inculpés.
Il
vendait simplement des cigarettes à la pièce dans la rue, c'est ça.
Raphaël Chenillazan, je voulais vous poser une question, mais vous levez le doigt pour intervenir. Alors je vous laisse intervenir et je poserai ma question seulement après. Je vous écoute.
Juste sur la question pour ramener sur la peine de mort. Et la peine de mort est le symptôme de deux choses très américaines. D'abord la question raciale, et vous l'avez soulevé, et c'est une question importante sur la question de la peine de mort. Mais il y a aussi, et de manière concomitante, la question sociale. Les condamnés à mort sont pauvres pour la grande majorité d'entre eux. Et la majorité des Blancs qui ont été exécutés aux États-Unis en 2016 sont pour la plupart des gens pauvres. Et qui va aussi avec quelque chose qui est une question, c'est la question du système juridique américain. Et en particulier, on le sait bien, c'est par État et dans certains États du Sud où la justice est délabrée, il faut le dire, où il y a des vrais problèmes de corruption dans certains comtés du Texas, et donc finalement une inégalité totale devant la justice et devant la sentence suprême qui est la sentence capitale.
André Gaspi.
Que la justice soit uniquement délabrée, c'est parce que la justice dépend de l'opinion publique. C'est-à-dire que les procureurs sont élus. Par conséquent, ils représentent des électeurs. Et c'est cela, en somme, qui fait la grande différence avec le système français. Ce ne sont pas des fonctionnaires, mais ce sont avant tout des hommes politiques ou des femmes politiques. Donc, ils sont responsables devant leur opinion. Et c'est pour cela que dans certains comtés, il y a une justice extrêmement rigoureuse, favorable à la peine de mort. Et dans d'autres comtés, au contraire, on peut y échapper. Mais cela dit, pour en revenir à la question des Noirs, il ne faut pas oublier que ce qui est important, c'est pas uniquement le fait qu'il y a plus de Noirs que de Blancs qui sont condamnés à mort. En fait, le pourcentage est équivalent, sauf que la population blanche est infiniment plus nombreuse que la population noire. Mais ce qui est important, c'est que les exécutions sont beaucoup plus nombreuses quand les victimes sont blanches. C'est ça le problème important. Quand les victimes sont blanches. Voilà, c'est là qu'il y a discrimination.
Une toute dernière question, Ndoumé Olatouchani. Ça sera ma dernière question. L'Institut Pew vient de publier une étude qui montre que le taux d'Américains favorable à la peine de mort est tombé à son plus bas niveau. Je crois que c'est 19% contre 42% d'Américains qui se déclarent opposés à la peine de mort. Est-ce que ça vous rend optimiste ?
Je suis très optimiste de voir ce mouvement aux États-Unis où les gens s'éloignent de cette idée que tuer des gens, prouverait que le meurtre est quelque chose de mauvais. En fait, je suis encouragé par cette tendance. Comme vous l'avez dit, professeur Gaspi, en termes de... Du fait que cela dépend du lieu où se tient la Cour de justice. Aux États-Unis, je crois que c'est vrai dans la plupart des pays dans le monde. Les gens qui sont dans les couloirs de la mort aux États-Unis sont des gens qui n'ont pas les moyens d'avoir un bon avocat ou un avocat complètement. Et c'est aussi un problème politique.
Les politiciens,
les procureurs aux États-Unis sont élus et la plupart des gens que vous voyez dans le gouvernement américain, certains d'entre eux étaient des procureurs et ils utilisent la peine de mort comme un tremplin pour leurs aspirations politiques à venir. Mais je suis très encouragé par le fait que l'on peut voir ce déclin dans l'appétit des gens pour la peine de mort aux États-Unis.
La bataille de l'opinion est en train d'être gagnée, on s'en réjouit. Merci beaucoup à tous. Suzanne Kigula, Ndoumé Olatouchani, Raphaël Cheniazan, André Gaspi, merci infiniment d'avoir accepté d'être nos invités ce matin. C'est évidemment à la fois émouvant, important d'évoquer toutes ces questions-là. On vous remercie infiniment d'être passé dans les studios de France Culture. Je crois que par ailleurs, vous allez commencer un travail de sensibilisation auprès de collégiens, de lycéens, et c'est évidemment un travail absolument essentiel. Merci beaucoup d'être venu. Can't be positive when the ghetto's where you live. So bad, bad, and I'm never meant to be. Voilà, c'est avec cette musique, ce rap américain, évidemment Tupac, Death Row, le couloir de la mort, qu'on se quitte. Merci encore infiniment à tous nos invités. On avait aussi également des élèves, des jeunes qui étaient avec nous ce matin en studio. Merci beaucoup d'être là. L'heure, évidemment, est passée très vite. Il est 11h presque 54 minutes, l'heure de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Voilà, Brice, avec votre tour du monde des idées, bonjour.
Bonjour, Florian.
Alors, il se passe de drôles de choses sur les bords du Danube et de la Vistule. On dirait que le Brexit, dont on a déjà parlé ici, a donné le signal d'une attaque contre l'Union européenne menée par deux des pays qui ont le plus profité de leur adhésion, la Hongrie et la Pologne, Brice.
Oui, Florian, le vote des Britanniques en faveur de la sortie de l'UE a comme déchaîné certains dirigeants d'Europe centrale que Bruxelles énervait depuis longtemps par ses rappels à l'ordre. Ils croient le moment venu de se dégager de contraintes que leurs pays ont pourtant acceptées pour rejoindre le club européen. Et ce faisant, il menace de porter le coup de grâce à un édifice déjà fragilisé. Nous autres, en Hongrie, nous avons un proverbe selon lequel si on a vraiment confiance en quelqu'un, on peut voler des chevaux ensemble, a déclaré le mois dernier le premier ministre hongrois Viktor Orban au forum de Krynica. Eh bien, je connais plusieurs écuries où nous irions volontiers voler des chevaux en compagnie des Hongrois. Et le plus grand d'entre eux s'appelle l'Union européenne, lui a répondu Jaroslav Kaczynski. Si Viktor Orban est le premier ministre d'une Hongrie qui a donné deux fois de suite une majorité absolue au Parlement de Budapest à son parti, le Fidesz, Jaroslav Kaczynski, lui, n'exerce aucune responsabilité au sein du gouvernement polonais. Mais frère jumeau du président de la République décédé dans un accident d'avion en 2010, il est le président en titre du parti au pouvoir Droit et Justice. Il passe pour l'inspirateur secret du gouvernement, celui qui tire les ficelles de ministres réduits dans bien des cas au rôle de marionnettes. Alors qu'Orban est un politicien aguerri et cynique, qui a eu notamment l'habileté d'affilier au Parlement européen son parti au Parti populaire européen, le parti de Kaczynski, lui, a rejoint l'Alliance des conservateurs et réformistes. Le premier frais ainsi avec la CDU allemande et les Républicains français. Le second se retrouve isolé avec les vrais Finlandais et quelques groupes marginaux. Mais les deux partis sont également nationalistes et xénophobes. Or, ces deux dirigeants rêve d'entraîner l'Europe entière dans la voie de ce qu'Orban a appelé la démocratie illibérale. Le premier ministre hongrois, qui invoque le modèle de la Russie de Poutine, a été longtemps le seul dirigeant européen à avouer une semblable tentation. Mais depuis octobre dernier, il a été rejoint par Kaczynski, dont le parti a gagné les élections en Pologne. Les deux hommes se sentent assez forts ensemble pour tenter d'infléchir radicalement la politique en Europe.
Mais alors, qu'est-ce qu'il faut entendre, Brice, par démocratie illibérale ?
Eh bien, c'est le politologue américain Farid Zakaria qui a forgé cette expression dans un article publié dans la revue Foreign Affairs en 1997. Il remarquait déjà, à l'époque, un phénomène politique qui s'est beaucoup répandu depuis, des régimes qui conservent certes les procédures électorales classiques, mais qui restreignent les libertés civiques. Récemment, Yasha Munk de Harvard a expliqué comment nos démocraties occidentales, démocratiques et libérales à la fois, avaient été ébranlées par la crise de 2008. Ce sont des régimes qui sont démocratiques, parce que leurs institutions sont censées traduire le point de vue des citoyens dans l'action publique, les dirigeants sont choisis au cours d'élections libres, mais ce sont aussi des régimes libéraux, dans la mesure où ils garantissent les droits et libertés individuelles, préservent en particulier ceux des minorités et soumettent les lois votées par le Parlement à un contrôle de constitutionnalité. Or, ces deux systèmes sont minés de deux côtés à la fois. D'une part, nous connaissons un libéralisme non démocratique. Ce sont les banques centrales qui ont jugulé la crise financière, prenant des initiatives éminemment politiques, hors de tout contrôle démocratique. La politique commerciale dépend d'accords internationaux enveloppés de secrets, des agences et des juridictions internationales de toutes sortes disposant de pouvoirs impressionnants échappent à tout contrôle. Il en résulte une impression générale de dépossession démocratique. De l'autre côté, nous avons affaire à des démocraties illibérales, car cette frustration civique est instrumentalisée par des dirigeants comme Viktor Orban, qui proclament que la volonté politique exprimée par la majorité des électeurs ne devrait connaître aucun obstacle. C'est pourquoi, en Hongrie comme en Pologne, on constate des chicanes mises en travers du contrôle de constitutionnalité, la mainmise du pouvoir sur l'audiovisuel public, la colonisation de la fonction publique par les partisans du gouvernement. On n'est pas très loin de la dictature majoritaire dans les deux cas. Les gouvernements se réclament de victoires électorales impressionnantes. Deux fois de suite, une majorité de deux tiers au Parlement pour Orban. Une victoire moins impressionnante en voie pour Kaczynski, mais remportée contre un parti parti, celui de Donald Tusk, qui pouvait se vanter d'avoir été le seul en Europe à éviter la crise de 2008. Ainsi se font face. D'un côté, une nouvelle mouture du despotisme éclairé, des technocraties qui prétendent représenter l'état de droit, de l'autre, un néo-césarisme qui se veut le héros du vrai peuple.
Ah, le vrai peuple. Merci beaucoup, Brice, pour votre tour du monde des idées. Merci, vous avez rattrapé. On était un petit peu en retard, Brice. Vous êtes vraiment parfait. Merci beaucoup. Dans un instant, sur France Culture, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table. Vous, Brice, ce sera évidemment demain, comme chaque jour.